que vous allez suivre est une rediffusion.
RFI.
Muy buenos días, mi nombre es Susan Saavedra.
C'est pas du vent.
Buenos días, mi nombre es Hernán Castrillón.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por su participación en el evento.
Anne-Cécile Bra.
Mi nombre es Diana Mejía.
Bonjour. L'extrême sud-est du Texas, à la frontière mexicaine, est une région magnifique mais marginalisée. À la croisée des écosystèmes entre côtes du Golfe et déserts du Chihuahua, plaines tempérées et forêts tropicales, la Rio Grande Valley abrite une nature variée. C'est une étape pour les oiseaux migrateurs et un refuge pour les félins menacés. Mais le bord du Rawl, ce mur frontalier de 5 mètres de haut érigé depuis 2006 pour bloquer les migrants d'Amérique centrale, menace cet univers fragile. Alors que le Texas déborde de richesses, la Rio Grande Valley est la région la plus pauvre des États-Unis. À un jet de pierre du Mexique, on y découvre la réalité des colonias, ces villages ruraux informels apparus dans les années 70 sur de vieilles terres agricoles. Citoyens américains ou sans papiers, au moins 500 000 personnes y vivent dans des conditions précaires qui racontent une injustice sociale et environnementale. Sud Texas, une frontière et des hommes, c'est un reportage de Cerise Maréchaux.
Je viens d'arriver dans le sanctuaire naturel de Santa Ana, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
T'as vu le chachalaca au sommet de l'arbre là-bas?
Ouais.
Il est gros, hein?
Comment il s'appelle celui-là?
Un chachalaca. On dirait une sorte de poulet, ils volent très peu. Ils ont un cri très reconnaissable et ils se parlent entre eux pendant des heures, parfois de très loin. On a recensé plus de 400 espèces d'oiseaux dans ce refuge de 800 hectares. C'est impressionnant. Je m'appelle Daniel Tix, je suis écrivain ici à McAllen. C'est un aigle.
Il y a un aigle qui vient de faire une acrobatie dans le ciel.
Tu vois ce qu'ils font ces aigles-là? Les chercheurs appellent ça la bouilloire. Ils volent en spirale de haut en bas pour sentir le vent. Le groupe attend que l'un d'eux attrape un courant chaud venu du sud et puis ils le suivent. C'est comme ça qu'ils progressent dans leur migration. De temps en temps, on aperçoit ça ici et ça obscurcit le ciel tellement les aigles sont grands. C'est très sec ici, mais à mesure qu'on marche vers le sud et la rivière, tu vas voir la forêt changer. De broussailles toutes sèches et épineuses, on va vers une végétation plus marécageuse. On observe aussi que les oiseaux changent de territoire et se déplacent vers le nord. Ironiquement, c'est une aubaine pour les passionnés d'oiseaux parce que plein d'espèces d'oiseaux jusqu'alors jamais observées aux États-Unis apparaissent aujourd'hui dans le sud du Texas. Même le jet vert qu'on a vu à l'entrée du parc, typique du sud Texas, se montre aujourd'hui à San Antonio et Houston et on ne l'avait jamais vu avant. On a perdu 95% de l'habitat naturel ici dans le sud Texas. Et malgré tout, le sud Texas reste l'un des meilleurs endroits pour observer les oiseaux. En partie parce qu'on se trouve au croisement entre plusieurs écosystèmes. Donc on voit des oiseaux venus des tropiques, des zones tempérées, de la côte et du désert. Donc ici, dans la Rio Grande Valley, ce n'est pas seulement une frontière politique entre les États-Unis et le Mexique, c'est aussi une zone de confluence entre plusieurs zones géographiques. Au nord, c'est tempéré, alors que quelques mètres au sud, on entre dans les tropiques. À l'est se trouve la côte du Golfe et à l'ouest, le désert de Chihuahua. Toutes ces écorégions se rencontrent et se chevauchent ici. Et puis, on est au cœur des couloirs de migration des oiseaux venus d'Amérique centrale et même d'Argentine. Pendant leur voyage, ils ont besoin de se reposer et de se nourrir. Les lieux pour faire étapes sont de plus en plus rares. Mais le refuge de Santa Ana est l'un d'entre eux.
They built this. It's called the Canopy Trail.
Ce chemin suspendu s'appelle la canopée. Quand il a été construit, il y avait eu beaucoup plus de grands arbres. Donc l'idée, c'était vraiment de surplomber la canopée. Mais de très nombreux arbres sont morts. Il y a eu une grosse inondation en 2010, puis des tempêtes. Ensuite, une grave sécheresse de 2-3 ans, puis à nouveau, inondation et sécheresse. Ça a été un choc pour cette forêt, et la canopée a disparu. D'ici, on peut voir le passé, le présent et le futur de la Rio Grande Valley. Là où on est, au cœur du refuge naturel, c'est le seul endroit qui ressemble à la vallée il y a 500 ans. Une magnifique forêt lacustre. Mais par ici, au nord et à l'ouest, on voit les champs de kale, d'oignons et de melons. Ça, c'est vraiment le passé récent de cette région. À partir des années 40-50, l'agriculture est devenue la principale activité ici. D'ailleurs, sur la route, jusqu'ici, on a vu des gros camions pleins de cargaisons d'oignons, des ouvriers migrants allant au travail. On est vraiment encerclé par l'agriculture et ça signifie aussi la destruction des habitats naturels. Le futur de la vallée, ou disons le présent, on le voit plutôt au sud et à l'est. À l'horizon, on distingue les usines maquiladoras, du côté mexicain de la rivière. C'est là que des produits manufacturés sont fabriqués par une main-d'œuvre mexicaine, pas chère, payée 1 $ de l'heure, avant d'être renvoyée aux États-Unis. Là-bas, près du château d'eau, on aperçoit le pont transfrontalier et l'autoroute bordée de palmiers avec un constant va-et-vient de poids lourds.
Donc le mot maquiladoras, c'est vraiment pour le côté mexicain.
C'est exact. D'ailleurs, ça pose des gros problèmes environnementaux parce qu'il y a très peu de régulation des maquiladoras. Par exemple, des déversements de produits toxiques dans la rivière Rio Grande, qui est la source d'eau potable pour tous les habitants de la région. Les maquiladoras sont vraiment le fruit des accords de libre-échange NAFTA entre le Mexique et les États-Unis et se sont développés ces 20 dernières années. NAFTA et la mondialisation, c'est la Rio Grande Valley d'aujourd'hui, avec ses 1 400 000 habitants, qui seront 2 millions en 2020.
Des villes qui étaient il n'y a pas très longtemps très petites, maintenant elles se développent tellement qu'elles se touchent et c'est comme si c'était une immense zone urbaine sans nature au milieu.
Oui, pourtant, c'est ça l'espoir de nombreux politiques ici. Ils veulent devenir la prochaine Austin, le prochain San Antonio, le prochain Dallas. Et c'est bien parti. Mais contrairement à ces villes, on manque des infrastructures de base.
Mais les travailleurs qui viennent de ce côté-ci de la frontière, quels sont les emplois qu'ils trouvent ?
Il y a beaucoup de boulot dans le transport, la logistique, les entrepôts, la santé et toute l'industrie des services. Et bien sûr aussi la construction, qui est le principal employeur des immigrants dans le sud Texas.
De l'autre côté de la rivière, c'est le Mexique.
Là, on marche le long de la rivière, du côté américain. On dirait que quelqu'un a traversé ici, s'est changé et a laissé son t-shirt mouillé au bord. L'eau est profonde ici et le courant est fort. C'est vraiment dangereux de traverser.
Les interférences, elles sont sûrement causées par des patrouilles de sécurité ou des caméras ou des détecteurs de mouvement. La garde frontière va peut-être venir nous trouver. Et donc, au bord de la rivière, il y avait un t-shirt qu'on a pu apercevoir entre les roseaux, qui a dû être laissé par une personne qui a traversé la rivière. La rivière, c'est la frontière. Et cette personne qui a laissé son t-shirt après avoir traversé, à votre avis, elle est partie dans quelle direction ? Elle a fait quoi après ?
Si elle était seule, elle a dû continuer seule. Si elle voyageait avec un coyote, c'est-à-dire un passeur, elle est sûrement montée dans un véhicule qui les attendait. Certains restent dans la Rio Grande Valley, mais la grande majorité va plus loin et se retrouve ensuite confrontée à un autre obstacle, le checkpoint de Falfurrias, à une centaine de kilomètres au nord. C'est un voyage très dangereux. Le checkpoint est installé dans un coin très isolé. C'est fait exprès. Des centaines de personnes sont mortes en essayant de le contourner, car il y fait très chaud et sec, et il n'y a aucune aide alentour. On peut passer des jours sans croiser âmes qui vivent.
Beaucoup de personnes essayent d'éviter ce checkpoint, donc ils s'enfoncent dans le désert. Et c'est dans cette région qu'il y a le nombre de personnes mortes ou disparues le plus élevé.
Ces dernières années, les routes migratoires ont changé. Les gens traversaient en Arizona, mais maintenant, la plupart traversent ici, dans la Rio Grande Valley. Quand je suis à Santa Ana, au milieu des oiseaux, dans les vestiges de cette nature originelle, ça me rappelle combien les frontières sont artificielles. Regarde le Mexique de l'autre côté. Ça ressemble exactement à là où on est.
Et pourtant, la rivière Rio Grande n'est plus la seule à séparer les États-Unis du Mexique. Depuis 2006, un mur immense a été construit par tronçons sur plus de 1000 km de frontières. Décidé par l'administration Bush après le 11 septembre, validé par le Secure Fence Act, il a déjà coûté 3 milliards de dollars. Scott Nicol, membre du Sierra Club dans la Rio Grande Valley, me conduit au pied du mur. Ce mur qui coupe en plein cœur d'un refuge naturel très précieux pour les espèces locales.
Je m'appelle Scott Nicol, je vis à McAllen, au Texas. Je suis volontaire au Sierra Club, je fais de la sensibilisation sur les problèmes liés à la frontière.
On s'approche du mur de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, à la pointe sud-est du Texas, dans la Rio Grande Valley. Donc c'est un mur haut de 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 5 mètres. Des poteaux plantés les uns contre les autres, très serrés.
Au nord, là où on voit les drapeaux, c'est le poste douanier.
Et là-bas, on aperçoit, au point d'entrée, on aperçoit les trois drapeaux, le drapeau du Texas, le drapeau du Mexique et le drapeau des États-Unis.
Et de l'autre côté se trouve une partie du parc national Rio Grande Valley.
Ça évoque vraiment quelque chose de médiéval avec des pointes. Les poteaux sont pointus à leur extrémité, tout en haut. Des poteaux en métal. Et sur de nombreux poteaux, on aperçoit des traces de mains qui se sont agrippées pour grimper. Et il y a des brosses à dents par terre qui traînent dans les herbes.
Oui, la patrouille des gardes frontières force les gens à lâcher leurs brosses à dents. Ils pensent que ça peut servir d'arme.
Une chambre à air de pneus de camion a été laissée, abandonnée, au pied du mur. Ça a sûrement dû servir de bouée pour les personnes qui ont traversé la rivière.
À l'échelle de la frontière, le nombre d'arrestations de personnes entrées illégalement n'a pas été aussi bas depuis les années 70. Mais ici, les traversées ont augmenté. Et la plupart ne sont pas des gens qui essaient d'échapper aux gardes frontières. Ce sont des mères et des enfants venus d'Amérique centrale. Dès qu'ils passent de ce côté, ils cherchent une patrouille pour se rendre dans l'espoir d'obtenir le droit d'asile. Le mur n'arrête pas les gens. Ils peuvent le grimper. Par contre, il est très efficace pour nuire à la vie animale. Cette forêt qu'on voit en face de nous fait partie d'une réserve protégée dédiée aux ocelots, des félins plus petits que le puma. Ils ressemblent un peu aux jaguars. Ils sont mouchetés, très beaux. Aux États-Unis, il en reste moins de 50. Il y en a plus en Amérique centrale, mais les nôtres sont isolés. L'urbanisation a totalement fragmenté les habitats des différentes populations d'Oslo. Si on ne fait rien, ils vont bientôt disparaître aux États-Unis. Ils n'ont pas assez de territoire pour chasser ou pour se reproduire. Cette réserve a été conçue pour suivre la rivière, mais le mur bloque le passage naturel des ocelots. C'est un mur de béton de plus de 5 mètres de haut. Un ocelot ne peut pas le franchir.
Depuis quand il est là, ce mur ?
Ce tronçon-là a été construit en 2009-2010.
C'est très récent. C'était pendant la présidence Obama.
A priori, le mur devait être fini en décembre 2008, c'est-à-dire sous la présidence Bush. Mais ils n'ont pas tenu les délais, notamment parce qu'au Texas, il y a énormément de propriétaires terriens. Et même s'ils ont passé outre de nombreuses lois pour construire le mur, la propriété est un droit constitutionnel. Donc pour construire le mur sur des ranchs privés, il a fallu aller devant les tribunaux, poursuivre les propriétaires en justice. Ça a pris des années. Par contre, là où on est, c'est plus facile. C'est une réserve naturelle, donc pas besoin de poursuivre quiconque.
Parce que ça appartient à l'État.
Ça appartient déjà à l'État fédéral, donc en gros, les réserves naturelles sont des cibles faciles.
Donc la nature a été sacrifiée au nom de la construction de ce mur.
Absolutely.
Quelles autres espèces habitent ici ?
Il y a des jaguarundis, un autre type de petit félin. On trouve pas mal de pumas, des coyotes et beaucoup d'oiseaux. Tiens, d'ailleurs on voit un aigle là-bas.
Comment la présence de ce mur impacte la population d'oiseaux ?
De deux manières. Pour les oiseaux migrateurs, c'est surtout leur habitat qui est démantelé. Mais il y a aussi des espèces d'oiseaux qui ne volent pas haut, notamment en Arizona. Le mur est tout simplement trop haut pour eux. Tous les animaux en souffrent d'une manière ou d'une autre.
Une voiture de patrouille qui vient de passer en contrebas. Combien ça coûte par mile de mur ?
En moyenne, 7 millions de dollars par mile de mur.
Et pendant ce temps, des coupes budgétaires sur la santé, l'éducation, la protection de la nature.
Oui, ce mur est juste un coup de pub. Les politiques peuvent poser devant et s'en vanter, mais ils font semblant d'ignorer que le mur est juste inefficace et destructif.
Et les agences de protection de l'environnement, par exemple l'EPA, elles se sont exprimées à ce sujet ?
Des personnes au sein de ces agences se sont exprimées, mais ce n'est pas bon pour leur carrière. Ken Merritt, qui dirigeait cette réserve à l'époque où le mur était en projet, s'est vu sommé de faire passer la pilule et d'approuver le mur. Sauf qu'il a dit le contraire, que le mur était incompatible avec la mission de cette réserve. Du coup, il a été poussé à la retraite.
Ça sent la fumée, il y a quelque chose qui brûle. Ces habitations là sur la gauche, des habitations assez précaires, des caravanes.
Oui, c'est un quartier très pauvre. Ça illustre la marginalisation ici dans le sud Texas. On est à la marge des États-Unis. Beaucoup d'habitants ici sont vus comme suspects. Il faudrait être soit mexicain, soit américain. Mais ici, c'est une culture binationale. Les gens sont bilingues. Certaines personnes ne l'acceptent pas. Et les droits en sont encore moins respectés. C'est plus facile d'infliger des dommages environnementaux, de contourner des lois, de militariser cette région. Les gens ici sont plus pauvres. Ils ont moins d'impact politique, donc on les ignore. On ignore leurs besoins, leurs problèmes environnementaux. Les lois ont été ignorées. Pour construire le mur, le Congrès a accordé au département de la sécurité intérieure le droit de contourner des lois sur la protection de l'environnement. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ce mur a été construit sans tenir compte de la loi sur les espèces menacées, ni de la loi qui protège les sites funéraires des tribus natives américaines. Et ça n'est possible que pour le mur. Le président ne peut pas contourner ses lois. Personne ne le peut pour un autre projet. C'est que pour le mur. Pourquoi ? Parce que cette région n'est pas considérée comme pleinement américaine. Donc on n'est pas aussi bien protégé par la loi et par notre constitution.
He venido al desierto para irme de tu mundo. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He
el desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes dans la Rio Grande Valley, la région la plus pauvre des États-Unis. Le contraste est fort avec le riche Texas si proche. C'est ici, à un jet de pierre du Mexique, que l'on découvre la réalité des colonias, ces villages ruraux informels apparus dans les années 70. Citoyens américains ou sans papiers, au moins 500 000 personnes vivent ici. Leur histoire est celle d'une injustice sociale et environnementale, comme le démontre ce reportage de Cerise Maréchaux.
Buenos días. Il y a un vieux chien tout pelé qui se gratte sur les marches de la maison.
Je m'appelle Lourdes Salinas et je vis à Indiana East West. Je travaille avec l'association Proyecto Azteca comme organisatrice communautaire.
Moi, je suis Sarai Montelongo. Je vis dans cette colonia depuis 5 ans. J'ai 4 enfants. On va vous montrer dans quel état sont nos rues. Elles sont pleines de trous. Parfois, des gens les remplissent de pierres, mais dès qu'il pleut, ça recommence. Les bus roulent très mal ici et nos enfants se cognent la tête. Nos voitures sont tout le temps cassées. Les bus scolaires ne peuvent plus passer ici, chercher les enfants devant les maisons. Les ambulances, les pompiers, la police, pareil, ils ne viennent plus à cause de l'état des rues. Quand il y a une urgence et qu'il fait noir, l'ambulance ne voit pas le numéro des maisons, donc ils repartent. On galère aussi pour la collecte des déchets, des branches.
Au bord des rues, il n'y a pas de trottoir. Il y a beaucoup d'encombrants qui jonchent le bord des maisons. Des vieilles valises, un vieux ventilateur, des palettes de bois, il y a du vieil électroménager, du plastique. Des mini-décharges qui s'amoncellent à l'entrée de la plupart des maisons. Il n'y a aucun service qui vient les récupérer ?
Non, pareil pour les vieux pneus, ils restent là et ça amène beaucoup de moustiques.
Il y a des poubelles devant chaque maison, des poubelles bleues.
Pour les ordures de la maison seulement, pas les encombrants. Comme on est à l'extérieur de Mercedes, le service des eaux nous charge 15% plus cher que les gens de la ville pour l'eau potable, parce qu'ils l'amènent jusqu'ici. Ça nous coûte au moins 100-120 dollars, alors qu'en ville, ils paient 30-35 dollars. On paie trois fois plus cher. On a protesté pour qu'ils nous baissent les prix. On est plus pauvres et on paie plus cher.
Ils s'en foutent de nous.
Mais à cause de tous ces encombrants, l'eau ne part pas bien. On a des inondations et il faut mettre des sacs de sable entre les maisons. C'est un autre problème, ça aussi, l'évacuation des eaux.
Qui est responsable normalement de ces infrastructures, de toutes ces choses qu'il faut régler ?
Comme on est en dehors de la ville, on dépend du comté de Hidalgo. L'an dernier, on a obtenu qu'ils goudronnent les rues. On a attendu. Ils ne sont jamais venus. Les habitants se sont débrouillés pour boucher les trous, mais ça n'a pas tenu.
C'est comme si vous étiez financièrement pénalisé de vivre ici.
On est tous fatigués de demander de l'aide. On n'y croit plus. Ils nous disent qu'ils n'ont pas assez d'argent, mais pendant ce temps, nous, on paie des impôts. C'est ça que je ne comprends pas.
Et vous payez combien, vous, d'impôts ?
600, pero mi casa no tiene mucho lujo, no.
600 dollars par an. Pourtant, on n'a pas grand-chose. Pour ce qu'on a. Moi, je paie 1300 dollars par an, sans compter les charges qui sont toutes plus chères parce qu'on est en dehors de la ville. Ça devrait être le contraire.
Combien de personnes habitent dans ce quartier ?
Environ 500 maisons ici. Et de mon côté, là-haut, on est 130 maisons.
Indian Hills, où vivent Lourdes et Sarai, est l'une des 2000 colonias qui bordent la frontière au sud Texas. La plupart sont concentrées dans la Rio Grande Valley, notamment le comté Hidalgo où nous sommes.
Encore un tracteur qui vient de passer.
Au Mexique, une colonia c'est un quartier, tout simplement. Mais aux États-Unis, les colonias sont des bourgs ruraux informels qui ont poussé en marge des villes pour accueillir les travailleurs migrants, leur offrant un terrain, mais aucune infrastructure de base.
Je m'appelle Juanita Valdez Cox. Je suis directrice de l'association La Unión de Pueblo Entero. J'ai grandi dans une colonia appelée Seca, près de Dona. Elle est appelée comme ça parce qu'on n'avait pas l'eau potable.
Et pourquoi vous n'aviez pas d'eau dans cette colonia?
Quand on a acheté le terrain, il n'y avait pas d'accès à l'eau. En allant chercher à la station service, à l'épicerie, à l'église, on n'avait pas le droit. On faisait ça la nuit, on rapportait des gros bidons. C'était dangereux. Les enfants se sont noyés dans ces réservoirs. On était vraiment dans un coin abandonné. On manquait des choses essentielles.
En quelle année êtes-vous arrivé dans cette colonia?
On est arrivé en 1968. Mon père est venu du Mexique, comme d'autres, et se sont installés à la frontière. Ils ont acheté des terrains et des centaines de colonias se sont développées. C'était des bouts de terre agricole épuisés où plus rien ne poussait. Les propriétaires des ranchs les divisaient pour les vendre à ces migrants. C'était l'opportunité de posséder un petit bout de terre pour construire sa maison. Mais il n'y avait pas les infrastructures de base.
Le prix était alt.
C'était très cher, mais le premier paiement était très abordable. À l'époque, $50 suffisaient. Mais après, les taux d'intérêt étaient très élevés, 12%, 15%, voire 18%. Les familles finissaient par payer trois fois le prix initial. Et si elles rataient une mensualité, elles perdaient la propriété. Pire, parfois les vendeurs les obligeaient à tout repayer depuis le début.
Pourquoi à l'époque les colonias se sont développées sans ces infrastructures de base?
Il n'y avait aucune régulation, aucune loi qui nous protégeait. Aujourd'hui, c'est un peu mieux.
En 1989, après 30 ans sans régulation, une loi est votée au Texas. Les colonias sont désormais appelées subdivisions rurales. Et surtout, la loi est censée garantir les infrastructures de base. Mais elle n'est pas bien appliquée. De plus, elle n'impose pas de normes pour la construction des maisons.
Hola.
Yo pensé que no te
hallaba. Hola, ¿cómo están?
Ça sent bon. Maria, elle était en train de cuisiner quand on est arrivé. Vous fêtez une occasion spéciale? Je vois qu'il y a des tartes aux fraises qui viennent d'être préparées. Ah, c'est pour vendre. D'accord, sur le à qui la colonia?
OK.
Yo llegué aquí.
Je suis arrivée ici aux États-Unis en 2003. Je vivais près de Tampico. Je suis venue pour offrir un avenir à mon adolescente. Elle va avoir 21 ans. Je suis venue avec l'aide d'une femme qui m'a embauchée dans son restaurant. Mais mon mari et moi, on était toujours sans papier. Ma fille, elle a le permis de séjour pour étudier et travailler.
Donc ça fait plus de 13 ans que vous êtes ici et vous n'avez toujours pas de papier.
C'est très difficile. Je viens de perdre mon père. Je n'ai pas pu aller le voir. C'est le prix qu'on paie pour être ici. Mais c'est aussi une chance pour l'avenir. Ma colonia s'appelle Indianilis. Je vis ici depuis 6 ans. Avant, j'habitais dans une autre colonia, à San Carlos, au nord de la route 107. Mais j'ai perdu ma maison dans l'ouragan d'Oli. Beaucoup de monde s'est retrouvé avec de l'eau dans la maison.
Et les inondations, elles sont fréquentes?
Oui, parce qu'il n'y a pas de bon système d'évacuation des eaux.
Daniel Tix, habitant de McAllen et écrivain.
L'évacuation des eaux est un énorme problème dans la Rio Grande Valley. En fait, ce n'est pas une vallée, mais un delta. C'est très plat. Beaucoup de coins sont très inondables. Et la terre qui a été subdivisée en petits lots, vendue en tant que colonias, était soit de la terre agricole complètement épuisée, soit des terrains connus pour être dans des zones inondables. Mais bien entendu, on n'en a jamais parlé aux acheteurs.
Et plusieurs colonias ont été largement dévastées par des tempêtes, des ouragans ces dernières années.
En 2008, l'ouragan Dolly a été dévastateur pour les habitants des colonias. Des milliers de personnes ont perdu leur maison. Plus récemment encore, on a eu une série de grosses tempêtes, notamment l'ouragan Patricia, avec à nouveau de gros dégâts. Et ça a été toute une lutte pour que les sinistrés obtiennent de l'aide de l'État, afin de retaper leur maison ou d'être relogés sur des terrains plus élevés, capables de résister à de fortes tempêtes. Très souvent, selon les inspecteurs de FEMA, l'agence fédérale des situations d'urgence, il était impossible de prouver que les sinistres étaient la faute d'un ouragan ou d'une forte tempête, sous prétexte que les maisons dans les colonias étaient déjà en mauvais état ou tout simplement pas finies. Mais c'est parce que la plupart des gens font ce qu'ils peuvent. Ils construisent leur maison petit à petit, avec les moyens du bord, les murs, puis le toit et puis les fenêtres, plus tard une chambre, etc. D'ailleurs, un procès est en cours parce que les cas de rejet par l'agence FEMA ont été beaucoup plus nombreux dans le sud Texas qu'ailleurs dans le pays.
Et donc, seulement 3 ans après l'ouragan Katrina, dans cette même région, dans le golfe du Mexique, FEMA, cette agence fédérale qui doit répondre aux urgences de la sorte, l'État fédéral s'est encore comporté de manière discriminante envers des personnes vulnérables.
Oui, complètement. J'ai bien peur que nous n'ayons pas tiré les leçons de l'ouragan Katrina ou des autres grandes catastrophes de ce genre.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Je m'appelle Ramona Casas, je suis organisatrice communautaire pour l'association Arise. Là, on est au sud de Alamo, dans la Colonia Southside.
Moi, je suis Josué Ramirez, co-directeur de Texas Low Income Housing Information Service. Vous voyez ici, la plupart des gens ont des fosses septiques. Elles ne sont pas connectées à un système plus large d'évacuation. Quand l'eau monte ici, ça entraîne des problèmes de santé. Les excréments peuvent remonter à la surface et créer des infections. Admettons qu'une personne se balade dans la rue avec une coupure ou une blessure, et c'est l'infection à coup sûr.
Et l'eau met 3 ou 4 semaines à partir. Et l'autre conséquence, c'est que ça attire plein de mouches et plein de moustiques.
Parfois, ça sent les égouts plusieurs jours d'affilée. Je me réveille en pleine nuit avec de la fièvre. J'ai des évanouissements au point de devoir aller à l'hôpital.
Comment vous vous appelez ?
Salvador Moreno.
Salvador Moreno. J'étais en Californie, je suis venu ici au Petit Mexique, comme on dit, il y a 17 ans. Ici, dans la Rio Grande Valley, à San Juan, Far, Alamo, les gens sont très malades. Il n'y a pas assez de médecins. On a des tremblements, des nausées, des diarrhées. C'est comme ça dans la Rio Grande Valley, parce que la pollution est terrible.
Vous pensez que c'est lié à la pollution ?
Le Rio Grande est l'un des fleuves les plus pollués au monde et rien n'est fait pour améliorer la situation. Moi, je vois les gens qui viennent du nord, les anglo-saxons, même s'ils sont plus vieux, ils ont l'air en meilleure santé. Ils ont le regard vif. Nous, regardez-nous. Regardez, ça c'est une photo de moi quand je suis arrivé ici il y a 17 ans. Regardez, et vous me voyez aujourd'hui ?
Mais vous avez vieilli aussi.
Non, ce n'est pas ça. Je connais des gens en Californie. Ils ne sont pas devenus comme ça. Je suis sûr que c'est à cause de l'eau ici.
C'est une photo de vous avec votre petite fille.
quand vous étiez plus jeune. Cette photo, c'était il y a 17 ans.
Je ne peux pas devenir comme ça en 17 ans. Regardez ma tête, on dirait que je suis mort. Il ne me manque plus que le cercueil.
Vous avez la peau qui est beaucoup plus pâle, un peu jaune, c'est vrai. Vous avez l'air plus fatigué.
On a tous la peau de cette couleur ici, jaune et sale, comme les pièces de monnaie.
Cet homme peut sembler alarmiste, mais la santé des habitants de la Rio Grande Valley est globalement très mauvaise. Hidalgo, où nous sommes, est le comté le plus pauvre des États-Unis. Il détient de tristes records, le plus fort taux d'obésité et de diabète. L'obésité infantile touche 2/3 des enfants de 8 à 13 ans. Une autre affaire inquiète les habitants des Colonias. La pollution au PCB du réservoir Donna, dont l'eau irrigue les alentours et abrite de nombreux poissons. Emma Quintero nous emmène près du lac.
Là, on est près de Donna, dans la Colonia Frontera 13. Notre problème ici, c'est le lac. Le poisson est contaminé. Des gens sont venus faire des tests.
L'Agence fédérale américaine de protection de l'environnement s'apprête à sortir une nouvelle étude sur la pollution de ce lac et des poissons qui y vivent. Là, dans les herbes hautes, il faut faire attention aux serpents.
C'est la partie de la laguna.
Ah, il y a le lac là-bas, okay. Juste derrière la maison. Juste séparé des maisons par le canal d'irrigation.
C'est la même eau dans le réservoir et le canal d'irrigation. Au fond du réservoir, le siphon qui relie les deux contient des produits qui contaminent le poisson. Ce qui nous inquiète le plus, c'est les enfants. Moi, avant, j'en mangeais de ce poisson.
Il y a des gens qui pêchent ici ?
Oui, il y a plein de gens qui viennent pêcher tout autour. Et quand il fait très chaud, ils se baignent. Et après, ils vendent ce poisson un peu partout. Il y a beaucoup de monde qui en mange.
Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas au courant ?
Il faut comprendre que les gens font ça par nécessité, pour nourrir leur famille.
Vous travaillez ? Vous avez un métier ?
Atender al marido cuando llega.
Je suis au foyer, j'attends le retour de mon mari.
¿Y sus maridos qué hacen?
Mi esposo es
mon mari est maçon, il construit des écoles.
Il construit des écoles.
Aquí sobran las escuelas.
Ici, il y a plein d'écoles parce qu'on a plein d'enfants.
Porque abundan los niños.
En mars 2016, le rapport de l'Agence fédérale de protection de l'environnement est formel. Les poissons du réservoir de Donna contiennent de très fortes quantités de PCB. Ces isolants, interdits aujourd'hui, viennent du siphon construit au fond du lac. La bioaccumulation de ces PCB est dangereuse à long terme pour les habitants des Colonias, ayant mangé du poisson régulièrement. Les risques de cancer sont plus élevés, ainsi que des troubles du système immunitaire, du foie et des dommages au cerveau des enfants. Des centaines de riverains sont inquiets, mais aussi en colère. Cela fait plus de 20 ans que les officiels connaissent la toxicité de ces eaux, sans agir. Des pancartes interdisent de pêcher, mais sont peu dissuasives. Pour eux, c'est une injustice environnementale, car ils sont pauvres, hispaniques et sans poids politique. Malvado, descontrolado, me quería crucificado. Cuidado, sería un milagro si me lleva bajo la corriente. Hay suficiente macana para viejas calientes. La plaga no la enfrentes. Cierto y verdadero rapero desde el principio. Cambia tu sitio, el pecador tampoco juega limpio. Te chingas, es como un prisionero que tiene 25 a vida. O como una víctima del SIDA. Mi boca afloja más tiros que un R15 calibre. Estilos vienen del cerebro libre. Competiciones para mí son como las maldiciones. No me afectan, se cagan. Esos putos que me enfrentan marchando como un desfile, los tengo a todos formados gateando como si fueran mis esclavos. Pinche basura, no se acepta, este pecador da más chingadazos que ni el cinto de tu jefa. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre, y al que no le guste que chingue a su madre. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre, y al que no le guste que chingue a su madre. Soy el pecador y voy a hacer un desmadre, y al que no le guste que chingue a su madre.
Cette région, Rio Grande Valley, et les personnes qui habitent ici, c'est une très large majorité de personnes hispaniques ou hispano-américaines. Au niveau électoral, c'est un bastion plutôt démocrate dans un État qui est républicain et largement conservateur.
J'admets qu'il y a eu quelques améliorations et que l'État du Texas fait des efforts.
Josué Ramirez, du Texas Low Income Housing Information Service.
Mais par contre, j'insiste sur un point. L'État n'agit pas du tout assez vite compte tenu du temps depuis lequel ces problèmes existent. Ils viennent à peine de lancer une étude sur les problèmes d'égout et d'évacuation. Ça n'avait encore jamais été fait. Ils commencent seulement à prendre la mesure des problèmes. L'État du Texas n'a fait que réagir. Ils n'anticipent rien.
Il n'y a pas d'encouragement électoral à bien s'occuper des problèmes dans cette région du sud Texas.
Nous, avec Arise, on aide les gens à prendre conscience de leur poids politique, à s'organiser, à communiquer entre voisins, à voter pour faire changer les choses.
Et aussi, nous faisons une conscientisation.
On encourage aussi des habitants du coin à se porter candidats localement. On n'est pas dans une logique partisane, mais éducative.
C'est quoi ?
Ce sont des marchands ambulants, comme on en voit au Mexique. Ils passent avec des tortillas, du pain, du fromage. Ce sont des habitants des colonias qui font leur petit business. Là, c'est l'auto.
Malgré de nombreux manques, les habitants sont attachés à leur colonias, où la vie s'organise au quotidien, avec l'aide d'ONG locales très investies.
Je vends des tacos là-bas.
Oui, et l'autre jour, on était installés à son petit stand de tacos. Et à côté, il y a une petite salle de Zumba pour les filles.
Donc dans les colonias, ce ne sont pas seulement des habitations, mais il y a aussi les gens créent des petits commerces et des activités de divertissement.
Oui, on vend des vêtements, des ustensiles, des chaussures, un peu de tout pour s'en sortir. On a aussi une église, des petits terrains de football, on fait du sport, on fait ce qu'on peut pour améliorer notre quotidien.
Ciao, que t'es bien.
Proyecto Azteca fournit aux gens une nouvelle maison financée à taux zéro s'ils participent à sa construction pendant 550 heures de travail. L'Université du Texas, Rio Grande Valley, envoie des jardiniers construire des potagers chez les gens et leur apprendre à les cultiver pour une meilleure alimentation et des revenus supplémentaires.
Là, c'est ma caravane. On n'a pas beaucoup d'espace, on n'a pas fini de retaper la maison, on fait ça petit à petit. Là, il y a des piments, de la menthe, des tomates, des oranges. Je ne fais que semer des graines et ça pousse tout seul. Mes parents sont fermiers, donc je fais pareil. Ils sont à Oaxaca, au Mexique. Ça fait un an qu'on est arrivé.
Buenas tardes. Sí. Nena. No, yo
nomás rapidito a lo que. Comment c'est qu'elle?
Yo Paula Carrión.
Vous venez chez les gens, vous faites du porte-à-porte et vous leur proposez de l'aide pour leur santé.
Je travaille avec un programme de l'Université Texas A&M pour aller dans les colonias, éduquer les familles sur des questions de santé. On est 16 promotoras à faire ça entre Brownsville, La Sara, San Carlos, San Juan, Alamo. Aujourd'hui, j'ai des informations sur le papillomavirus. Et je sensibilise les familles pour vacciner leurs adolescents contre cette maladie sexuellement transmissible. Après, ils sont immunisés toute leur vie.
C'est la première fois que vous venez par ici frapper à la porte de cette maison ?
Oui, la première fois. J'ai des collègues qui marchent dans toute la colonia, mais moi je ne sors pas de la voiture parce que j'ai peur des chiens.
Ici, il y a un chien, mais elle est enfermée.
Bon, je vous laisse, au revoir.
Dans le sillon du leader syndical César Chavez, défenseur historique des ouvriers agricoles, l'organisation collective est la principale force de la communauté hispanique aux États-Unis. Même si de nombreux résidents des colonias n'ont pas de papier, la grande majorité sont citoyens américains. Les hispano-américains sont en passe de devenir majoritaires au Texas
et sont déjà devenus la première minorité aux États-Unis.
De Cerise Maréchaux réalisé par François Porcheron. N'hésitez pas à nous réécouter en podcast grâce à l'application Pure Radio. Et il y a une vie après l'émission, ça se passe sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, hashtag c'est pas du vent. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.
Porque es una sinfonía agridulce.
Hablo todo bien.